Mathieu Bogarts, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteur, auteur, compositeur avec un style minimaliste. Ça s'entend même dans votre façon de dire bonjour. Vous n'avez pas encore vendu des centaines de millions d'albums, ni rempli Bercy, mais vous êtes là depuis 20 ans avec un public de fidèles, avec un style minimaliste, disais-je, et le dernier album ne déroge pas à la règle. On est dans le dépouillement, il s'appelle Promeneur. Si je suis bien informé, vous avez commencé l'enregistrement il y a plus d'un an, fin 2015. Pourquoi tout ce temps?
Alors en fait, parce que je suis lent. Alors pourquoi suis-je lent? Parce que je suis exigeant et j'ai absolument, avant d'assumer que mon disque part dans la nature, j'ai besoin d'être sûr de que ce qui est formulé sur le disque, ça soit le bon jour avec le bon micro.
Mais c'est-à-dire il était prêt et la maison de disques voulait pas le sortir, ou il était prêt ou vous ne vouliez pas, ou il était jamais prêt.
Non, il y a toujours un temps incompressible entre le moment où le disque est fini et le disque qui sort. Ce temps-là, c'est entre 3 et 6 mois. Donc le disque est fini depuis fin juillet. Et je l'ai commencé fin 2015, donc ça fait quand même 7 mois, effectivement, c'est plutôt lent.
Est-ce qu'il y avait un concept de départ pour ce disque?
Alors en fait, un disque, c'est deux choses. C'est d'abord des chansons, puis après, c'est de la façon de les enregistrer. Donc les chansons, non, il n'y a pas de concept de départ. C'est une collection de chansons, chacune formulant un sentiment. Donc voilà. Et après, le concept d'enregistrement, c'était de les chanter à la guitare simplement, sans clic, sans casque, sans contrainte, tout seul. Feu de camp, on va dire, en mode feu de camp. Et une fois avoir les bonnes versions, rajouter quelques arrangements dessus. Ça peut paraître tout con pour quelqu'un qui fait pas de production de musique, mais en fait, ça se fait rarement comme ça.
Un clic, j'explique pour les auditeurs, c'est qu'on a les temps de la batterie dans les oreilles. Tac, 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 pour pas accélérer ni ralentir.
Tout à fait. Et
Mais
là,
ça change quoi si on n'a pas le clic?
si on n'a pas le clic, c'est que c'est moi qui donne le rythme. C'est moi, je n'ai pas de contrainte, je chante sans me mettre sur quelque chose, mais c'est moi qui donne le ton et le rythme.
Et si à l'écoute, vous dites merde, j'accélère.
Bah, du coup, ça prend 7 mois.
Vous la
Voilà,
refaites pour
je la
jouer dans les
refais.
temps?
Non,
Vous
mais
vous
en
dites
fait,
c'est pas grave, ça accélère, ça accélère.
oui, mais ça accélère un peu. Puis finalement, il y a des morceaux des Beatles que j'adore. Puis en fait, ça accélère et tout le monde s'en fout. Et c'est vrai que j'ai mis cette disque à mon apercevoir.
Pour le précédent album qui s'appelait Mathieu Bogarts, c'était en 2012, vous aviez enregistré 18 titres et vous en avez mis 6 à la poubelle, vous en avez gardé 12, vous avez fait pareil. Et question corollaire, pourquoi vous balancez des chansons?
Alors, c'est étrange, mais en fait, on vend un disque à certains prix. Et parfois, même si 18 chansons sont bonnes, j'estime que c'est mieux d'en vendre que 12 au prix de 18. Parce qu'en fait, 18, c'est trop long et ça devient indigeste. Et donc, c'est pas de gaieté de cœur, mais je me résous à en enlever 6.
Je l'ai remarqué en le mettant dans la platine, il est très court ce disque. Il fait même pas 40 minutes, il me semble, il fait 35 minutes.
Alors, c'est chouette que vous me disiez ça, parce que d'autres, beaucoup de gens m'ont dit qu'il était dense. Donc, s'il est dense et court, ça veut dire que je suis arrivé à mes fins.
Comment s'est passé l'enregistrement? Je veux dire le sens de ma question. Votre précédent album, vous aviez d'abord joué les morceaux sur la scène de la Java, qui est une salle parisienne, et ensuite vous l'avez enregistré. Et vous vous souvenez de ce que vous avez dit à l'époque? Vous avez dit, j'aimerais que ce disque marche, et en même temps, c'est étrange, mais j'ai l'impression d'avoir déjà joué.
C'est drôle ça.
Vous avez oublié.
J'oublie forcément certaines choses que je dis, heureusement d'ailleurs. Pour le disque précédent, le fait de vivre les chansons en public avant de les fixer sur un disque, j'avais déjà atteint l'orgasme de la satisfaction d'avoir une audience qui écoute mes chansons. Donc j'avais envie que le disque marche, mais s'il marchait pas, c'était pas grave parce que j'avais déjà atteint ce niveau.
Et pour celui-ci?
Et pour celui-ci, c'est pas le cas. Donc je commence un petit peu à sentir ça parce que des gens me parlent du disque. J'ai hâte d'aller sur scène, quoi, vraiment.
Et vous visez un score ou pas du tout?
Pour la première fois de ma vie, le disque est sorti il y a un certain temps et je n'ai pas osé aller regarder le top album. Pour la première fois que j'ose pas, parce qu'en fait, je suis abonné à un site de streaming depuis un an et depuis, je n'ai pas touché un disque moi-même et je me dis, mais quel est l'idiot qui va acheter mon disque? C'est dur à dire. Et je le dis quand même. Et c'est vrai que, alors, je dis pas quel est l'idiot qui va l'écouter, mais quel est l'idiot qui va aller dans un magasin pour l'acheter? Je dis ça, un idiot, avec beaucoup de tendresse, hein, attention, vraiment. Mais c'est vrai que moi-même, n'ayant pas touché un disque depuis un an et n'ayant pas acheté, j'en sors un disque. C'est bizarre de sortir un disque aujourd'hui.
Vous habitez à Londres
Oui.
depuis longtemps?
Depuis 4 mois.
Pour quelle raison?
Le goût de l'aventure. En fait, j'ai le goût de
Ah
l'aventure, le
oui?
goût du voyage, la
Ah, je me suis dit que
curiosité.
c'est parce qu'on payait moins d'impôts en Angleterre.
Non. Enfin, en tout cas, j'aime pas payer des impôts comme tout le monde, mais en tout cas, je ne me suis pas encore posé la question.
Mathieu Bogarts avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Mathieu Bogarts avec nous, chanteur, auteur, compositeur, qui vient de sortir son septième album. Il s'appelle Promeneur. Je vais parler du succès, car vous dites, j'ai l'énorme chance de faire la musique que je veux, sans aucune concession, d'en vivre correctement, de gérer mon temps comme je le souhaite, mais vous dites, j'aimerais être un chanteur populaire.
Oui, en fait, à partir du moment où je sors de ma chambre et je décide de proposer ma musique au reste du monde, finalement, idéalement, il y a 7 milliards d'êtres humains qui l'écoutent. Donc, en aucun cas, je snob un public en me disant je ne joue pas pour telle personne ou je ne joue pas pour telle personne. Si Drucker m'invite un week-end et faire une émission spéciale pendant 48 heures, j'y vais en courant.
Je vais vous dire ce qui m'a frappé dans vos propos. Vous dites, j'adorerais être à Bercy et que les gens se lèvent et hurlent. Pour ça, faut faire des chansons qui tendent à pousser les gens à se lever, à hurler. Or, votre style, il est extrêmement minimaliste. Parfois, il faut presque tendre l'oreille, il y a zéro effet. Vous chantez comme ça, parfois en chuchotant.
Alors, j'ai pas dit hurler. Ou alors, si j'ai dit hurler, c'était il y a 25 ans. Mais en tout cas, je pense à Bercy. Mais en tout cas, c'est plutôt, voilà, le fantasme, c'est plutôt, je vais sur une plage pendant l'été. Et il y a un groupe de bal qui reprend ma chanson. Et tout le monde la reconnaît. Et ça fout la banane à tout le monde.
Vous parlez avec une immense franchise, Mathieu Bogart. Vous avez dit à Cosette, il n'y a pas longtemps, vous dites « Il m'arrive d'être un peu jaloux quand un autre a beaucoup plus de succès que moi. » Et vous avez commencé, vous avez un groupe avec Mathieu Chédid.
Oui, tout
quel
à fait.
Effet ça vous fait quand vous le voyez faire une tournée des Zéniths avec les filles en transe?
Alors au début, ça m'a fait beaucoup souffrir au tout début, parce que au début, mon premier disque est sorti avant le sien. Et j'avais eu un certain succès sur mon premier disque. Et puis son premier disque sortait un an après, ça marchait pas trop. Puis d'un seul coup, ça s'est mis à marcher comme moi, puis plus. Donc le moment où c'est devenu un peu plus que moi, d'un seul coup, j'étais un peu désemparé. Et puis assez vite, j'ai compris que ça allait devenir une rock star au sens propre. Et que moi, je n'ai pas vocation à ça. Donc je n'ai pas vocation à faire hurler les filles avec une guitare électrique, même si je trouve ça super. Donc je ne suis plus du tout jaloux parce qu'on n'est pas dans la même clientèle, on va dire.
Vous êtes connu, il faut le dire, en dehors de la francophonie. Un tiers de vos ventes de disques, c'est au Japon. Est-ce que ça s'explique?
Alors c'était le cas, c'est un peu moins le cas maintenant. Ça s'explique parce que les Japonais sont très, on va dire que je dois participer au charme fantasmé qu'ont les Japonais. Quelle phrase étrange. En tout cas, je dois les charmer et je pense que les Japonais aiment les choses mignonnes. Donc je dois être un peu kawaii.
J'adore vous imaginer en kawaii, parce que
Ouais.
c'est souvent des filles en jupette, avec des grandes chaussettes.
Par contre, c'est pas moi les filles kawaii, c'est pas mon trip, mais j'ai plein de trips, mais pas les filles kawaii. Mais en tout cas, j'ai tourné au Japon et c'est un pays très attachant.
C'est quoi votre trip de fille?
C'est tout.
Ah.
Enfin, c'est les grandes, les petites, les vieilles, les jeunes, les noires, les blanches. Enfin, j'ai pas un trip de filles.
Vous avez fait un petit livre de 80 pages dans lequel vous disiez, je ne sais pas pourquoi je fais de la musique plutôt qu'autre chose, je ne sais pas pourquoi je fais cette musique-là plutôt qu'une autre. Ça vous fait rigoler? Vous savez bien pourquoi vous faites cette
Oui, mais
musique-là ou pas du tout?
c'est votre air qui me fait rigoler.
Ou ça vous échappe?
Non, je ne sais pas pourquoi on va dans un magasin de vêtements, on choisit un pull plutôt qu'un autre, on dit tiens, celui-là j'aime bien, l'autre j'aime pas, pourquoi je préfère ce pull bleu que ce pull vert, je ne sais pas. Donc pourquoi quand je fais de la musique, c'est cette note qui va m'émouvoir et celle que je vais porter, et pourquoi c'est pas telle autre, je ne sais pas. Et pourquoi j'ai envie de faire de la musique et pas de la boucherie ou je sais pas quoi, je ne sais pas non plus. Et je veux pas forcément savoir. J'ai ma petite idée, une hypothèse. J'aurais un déficit de communication pendant mon enfance et du coup j'aurais un besoin vital de m'exprimer. C'est peut-être un truc comme ça, mais si c'est peut-être pas ça et je m'en fous. Mais par contre, je sais que j'ai besoin d'en faire et j'ai une preuve.
Dites.
Quand je suis devant une vitrine de magasin de musique, j'ai envie, comme un enfant devant une vitrine de magasin de jouets, j'ai envie d'aller gratouiller la guitare, de taper sur la caisse claire, mais c'est un truc physique. Et à chaque fois, je me dis vraiment, je suis musicien.
Et ça vous fait pas ça devant une boucherie?
Non.
Vous dites fasciné par le prénom Michel. Vous avez dit c'est mon prénom préféré et j'aime bien la façon dont les Michel évoluent en 2005. Rien que cette phrase.
Vous faites allusion au disque Michel qui est sorti en
Ouais.
2005, où j'avais l'idée que le titre du disque, ça soit un prénom,
Ouais.
pour personnifier cet objet. Ce disque 2005, c'est Michel. S'il était sorti en 2010, ça aurait été un autre, je ne sais pas lequel. Voilà, peut-être André.
Mathieu Bogart avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Mathieu Bogart avec nous, Promeneur, c'est le titre de son album. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Est-il vrai que votre père vous a poussé à ne pas faire d'études?
Oui, mon père s'est toujours vanté d'avoir gagné 10 fois plus d'argent que son père, alors que lui a redoublé sa 6e, 5e, 4e, 3e. Et il m'a dit, tu feras pas l'armée, mon fils, et tu feras pas d'études, sans m'interdire d'en faire.
C'est vrai qu'il était brocanteur,
Oui.
qui fumait des pétards toute la journée.
Pas toute la journée, mais une bonne partie.
Est-il vrai que l'un de vos 8 disques de chevet est un album de Bob Marley?
Un de mes 3 disques de chevet.
Parce que vous avez dit 8, je me suis dit, c'est qui ce gars qui a 8 disques de chevet?
C'est trop. J'ai 7 chevets, c'est peut-être un
Non
lien.
mais blague à part,
Ouais.
vous avez combien de disques de chevet?
Je peux pas répondre à cette question.
Oh, dis donc, je suis bien sauvé moi. Est-il vrai que vous êtes mis à la batterie parce qu'un copain de votre père s'était fait virer de chez lui par sa femme?
Oui, il avait plus d'endroit pour mettre sa batterie et on avait un sous-sol à Nogent-sur-Marne.
Et du coup, vous avez pris des cours de batterie?
Très peu de cours, mais en tout cas la batterie m'a attiré vraiment, clairement.
Et vous jouez comment? Vous jouez bien?
Je
Je veux
joue.
dire pourquoi je vous demande ça, parce que j'ai vu que vous aviez un batteur.
Alors oui, parce que
C'est quoi votre style?
je crois que je joue très bien de la batterie et je suis un batteur frustré parce que c'est pas mon métier d'être batteur, même si j'ai fait des enregistrements et des concerts. Mais je fais de la batterie au moins 7 heures par jour sur mes jambes. Vraiment, j'ai de la batterie en moi. Et donc, ce que je peux pas faire à la batterie, je le fais à la guitare et j'ai un jeu de guitare très rythmique. Et souvent, des batteurs me disent, mais t'es batteur en écoutant mon jeu de guitare.
Et c'est la battle avec votre vrai batteur?
Non, pas du tout, parce que c'est un batteur très délicat et on s'écoute beaucoup. Et mais c'est vrai que à la balance, dès qu'il s'envoie 2 secondes, je tape la batterie, il me regarde, il y a un petit truc, c'est mignon.
Est-il vrai que vous avez travaillé dans un institut de sondage?
J'ai travaillé dans 15 instituts de sondage parce que je me suis fait virer de 14 parce que je trichais comme 80% des gens à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais même pensé faire un sujet pour, genre, faire un espèce de sujet, comment on appelle ça, clandestin, sur un institut de sondage très connu de l'époque qui faisait un sondage une fois par semaine d'opinion politique sur une chaîne, privée de la télévision française. Et je m'étais dit, je vais prendre un micro, voilà, et je vais le faire et je vais gagner des millions. Bon, je l'ai pas fait, mais je truandais comme tout le monde.
Vous truandiez comment?
C'est-à-dire, il fallait, interroger une femme de 30, je sais pas, une ménagère de 24, 39 ans, et je prenais un ado de 12 ans qui habitait à Marseille alors qu'il fallait qu'elle habite à Paris.
Et quand il vous en manquait, vous faisiez vous-même la réponse?
Non, mais pour gagner du temps, je posais que la question 1, 3, 9 et 14 et je remplissais la 2, 3. Bon, je suis pas forcément fier de ça, mais je l'ai fait et la plupart des gens le faisaient.
Quand on voit qu'en ce moment tous les sondages se trompent, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah bah ça vous fait marrer.
Je me sens responsable. Non, mais ça, ce dont je parle, ça fait 25 ans, mais ça peut peut-être pas évoluer, je sais pas. Je sais pas.
Est-il vrai que chez vous, il n'y a rien? Il n'y a pas de livre.
Oui, parce que une fois que j'ai lu un livre, j'ai pas besoin de le garder. Ça prend de la place. Je trouve pas ça spécialement beau. Il n'y a pas rien, forcément, mais il y a très peu de choses.
Mais vous n'aimez pas relire un livre?
Assez rarement. Ou, en tout cas, les livres que j'ai envie de relire, je sais que je les relirai, donc je les garde. Et puis sinon, je dépense 10 euros, genre, je le rachète.
Est-il vrai quand vous
Au
partez
prix
en
du
voyage?
mètre carré. À Paris et à Londres, c'est plus rentable de racheter un livre 10 euros plutôt que le stocker.
Est-il vrai que vous aimeriez importer à Paris une coutume qui vient de Kaboul, en Afghanistan? Vous l'avez dit à Télérama en mai 2012. Vous avez dit, il faudrait couper les bras des conducteurs de scooters qui roulent sur le trottoir.
J'exagérais un peu, mais c'est vrai que je trouve que c'est un comportement tellement irrespectueux. Il peut y avoir des pauvres vieux avec leur canne, des enfants qui sortent des cours. Je trouve ça vraiment. Très très agressif comme comportement, donc je vais pas couper le bras, mais en tout cas, je pourrais dire qu'avec le deuxième avertissement, j'en coupe un.
Est-il vrai que le même jour, vous êtes sorti avec une star et son sosie?
Oui. Alors l'histoire en deux mots, je suis dans une soirée, je vois une fille que je pense être une star de la télé, du cinéma, une très très jolie fille de mon âge. Et je suis sûr que c'est elle. Voilà. Puis en fait, je m'aperçois après quelques heures que c'est pas elle. J'arrive à voir son numéro. Et puis, une semaine après, je me dis, bon, allez, je l'appelle. Et toute la journée, finalement, j'ose pas l'appeler. Et en pleine loose, j'appelle un copain, qu'est-ce que tu fais ce soir? Il me dit, bah, viens, je vais à un dîner. Donc, je vais à un dîner, vraiment, par dépit. Et qui arrive? La vraie star. Et qui me saute dessus et qui dit qu'elle est amoureuse de moi et qu'elle est folle de mes chansons. Donc, je sors avec. Et entre-temps, l'autre me rappelle. Et du coup, pendant une semaine, je chantais avec les deux. Et entre-temps, j'ai choisi l'autre et je lui ai fait un enfant.
Merci beaucoup,
De rien.
Mathieu Bogart, d'être venu nous voir.